vous parler en mon nom personnel. Je suis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Voyez-vous comment je ne peux pas vous dire ce que je veux. Puis, non certainement, moi je ne suis pas ici comme ça, mais vous autres non plus. Même chose pour vous autres. Vous êtes ici en son nom. Quand je suis rentré dans l'église hier pour la première fois, j'ai dit, mon Dieu, que les gens de Saint-Angèle, de Saint-Malo, sont délicats pour nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, ils nous ont même fait une peinture du Père. Qui est là pour notre retraite, prier le Père. Extraordinaire. Puis quand on est ici en son nom à lui, il y a une première chose qu'il faut toujours qu'on fasse. Qu'on ne peut pas passer à côté. Même quand on n'est pas dans l'Église. C'est faire la vérité. Puis faire la vérité, c'est reconnaître qu'on est des pécheurs. Mais si on arrête là, là, on n'est pas dans son monde. Qu'on est des pécheurs aimés. Puis quand je prépare les enfants à la confession, je leur dis, les amis, faire un péché, c'est pas le manquement à une loi. Souvent, c'est les enfants de la police. La loi, ils connaissent ça. Ils ont des pères qui sont dans la loi. Alors, je dis, c'est pas ça. Faire un péché, c'est pas manquer une loi. C'est perdre une relation. C'est couper une relation. C'est sûr que le père, quand on coupe la relation, lui, il a rien coupé. Et son cœur de père veut qu'on retrouve le chemin de la relation. C'est pour ça qu'on commence nos Eucharisties en reconnaissant qu'on est déjà. C'est pour accueillir sa miséricorde, accueillir son amour qui nous rétablit dans l'alliance. Alors, on va faire ça ce soir. Mes amis, dans la première lecture hein, qu'on a eue, c'était du texte ici. Je vais essayer un peu coincé dans mon coin pour faire une chose, mais il va finir par m'habituer. Hein, découragez pas, soyez patient à mon égard. Seigneur dit, je vais montrer la sainteté de mon nom, qui a été profanée dans les nations. Savez-vous comment on fait pour profaner le nom de Dieu dans les nations?
Les idoles.
On fait des idoles, on ne le connaît plus, on ne sait plus qui il est, on se coupe de lui, on essaie de bâtir notre monde à côté de lui, puis c'est comme ça qu'on profane son nom. Et le premier lieu où on profane le nom de Dieu, chez les êtres humains. Pas dans la paroisse, chez nous, un jour, je suis en rencontre avec un professeur de maternelle, puis elle me dit ceci. Elle dit, cette semaine, elle dit, j'ai une petite fille qui m'est arrivée un matin, tout joyeuse, et tout resplendissant. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui arrive avec toi aujourd'hui? T'es tout resplendissant. Ah, ben dis-moi, attends, tu sais, moi, là, j'ai appris une grandes choses. Oui, tu as appris quoi? Ben, elle dit, j'ai appris que j'étais une grande fille. Ah! Ben, elle dit, comment t'as appris ça? Ben, elle dit, tu sais, les messieurs qui viennent voir maman le soir chez nous, fait qu'il y en a un qui est venu dans ma chambre, puis il m'a dit que j'étais une grande fille. Puis maintenant, moi, je sais qu'est-ce qu'il y a dans les culottes des messieurs. Puis je sais quoi faire avec ça. Mais voilà comment on profane le nom de Dieu. Et vous savez que chacun de nous, par une histoire comme celle-là, on est attristé. On est chaviré. On est bouleversé. Et puis, si cet enfant-là, parce que ça fait... Moi, ça fait 18 ans que je suis curé de cette paroisse-là, faisait de la prostitution en face, on la jugerait. On la mépriserait. Et on continuerait à profaner le nom de Dieu parmi les. Merci. Le mal, c'est pas une génération spontanée. Le mal a une histoire. Puis les blessures, elles s'apprentissent. Et les blessures, elles enferment, elles font un repli. Et un jour, dans un mal énorme, on ne sait même plus choisir les chemins qui peuvent nous conduire à la vie. Alors le Seigneur dit, les nations vont apprendre que je suis le Seigneur, quand par vous, je me montrerai saint à leurs yeux. Il nous engage dans ce moment. Quand par vous, je me montrerai saint à leurs yeux. Est-ce qu'on a cette conscience d'être élu, d'être choisi pour montrer la sainteté de Dieu? J'irai vous prendre dans toutes les nations, je vais vous rassembler de tous les pays, je vais vous ramener sur votre terre, puis je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, puis j'enlèverai votre cœur de pierre. Bon, ça va être difficile parce que je ne peux pas avoir un autre cœur qu'un cœur de pierre. Un cœur de pierre des roches. Puis aujourd'hui, dans la parole que nous partageait Rita, elle nous a parlé d'une pierre douce. D'une pierre qui avait été lavée longtemps par la mer. Vous savez que dans la Bible, la mer, c'est le lieu de la résidence du mal. Pour que nos cœurs de pierre parfois deviennent des cœurs de chair, des cœurs tendres, il faut qu'elles soient beaucoup polies par l'accueil de nos propres fragilités, de nos propres souffrances, puis de ceux des autres. Et il y a quelque chose qui fait qu'un cœur de pierre reste toujours un cœur de pierre. C'est si devant le mal, on porte un jugement, on ne peut pas être poli. La pierre ne pourra pas trouver la chair. J'avais des amis qui accompagnaient un pédophile. Et il n'y avait pas la vie simple. savez qu'habituellement, un abuseur, c'est un abusé. Et je ne connais pas d'abuseurs abusés qui ont été purifiés par l'eau du jugement. Je verserai sur vous une eau pure. Puis je vais vous libérer, purifier de toutes vos souillures. Souvent au Québec, quand on parle des purs, c'est pas ce qu'on pense.
Chasteté.
Ah, chasteté. Mais être pur ou impur, de l'art jus, c'est pas de l'art chaste. De l'art pur, c'est de l'art qui est entièrement de l'art. Puis de l'art impur, c'est qu'elle a un alliage. Et mêlée avec quelque chose d'autre. Bien, nous, quand notre amour est mêlé avec quelque chose d'autre que l'amour de Dieu, on est impur. On est impur. Puis quand il dit « Je vais vous purifier, là, je vais vous rendre entier, vous ne serez plus divisé. » Parce que le sens de diable aussi, hein, ça vient de deux mots grecs, diabolos. Dias veut dire deux. Celui qui te rend double, comme occupation double. Celui qui te rend double. Ah, c'est celui qui nous rend un, qui nous purifie, puis qui nous verse cette eau de l'unité. Et quand on est en unité avec Dieu, on risque de ne pas être trop dans le jugement de nos frères et de nos sœurs. Alors donc, cet homme dont je parle, qui est probablement pédophile, si vous allez dans le dictionnaire et vous regardez pédophile, on va vous donner une définition. Pensez-vous que vous allez avoir appris quelque chose sur la pédophilie d'un pédophile?
Non.
Absolument rien. Alors, celui dont je vous parle, parce qu'une de mes amies l'avait rencontré, sans le juger, et qu'elle avait rencontré cet homme-là dans des soirées en prison, et avec un long chemin, il avait comme vu qu'elle, elle avait l'air différente des autres. Et un jour, il a partagé des éléments de son histoire que je veux partager. Alors, il est venu au monde, c'est un bébé. Il n'était pas un petit garçon, il en était un. Puis, sa mère avait de graves problèmes de consommation d'alcool et d'alcool. Et lorsque son père partait le matin pour aller travailler, il passait toute la journée dans son lit, sans qu'on le nourrisse, sans qu'on change ses couches. Et tout ça se faisait le soir, quand le père arrivait à la maison. Quand il était un petit peu plus vieux, son père l'attachait pour pas qu'il sorte de son lit. Et il l'attachait dans la cuvette, dans le lit, pour que le soir, quand il rentrerait, il prendrait soin de son fils. Quand il était plus vieux, son père l'a attaché avec le chien dans la cuvette. Et c'est le chien qui le léchait pour le nettoyer dans la journée. Lorsqu'il a été plus vieux, un éducateur à son école, qui en s'apercevant de toutes les difficultés que le jeune avait, l'a pris sur son aile et l'a un peu révélé à lui-même, l'a aidé à grandir dans l'estime de lui-même, mais avec la compensation de le coucher dans son lit tous les soirs. Mais vous savez que quand vous passez d'un chien à un humain qui vous fait ce qu'il est, ben, c'est le bien qu'il vous fait pour vous, c'est pas mal. Et de cette expérience humaine, lui, il n'a jamais pensé qu'il faisait du mal quand il abusait du corps des plus jeunes. Il était confus, il était mêlé, mais il n'était pas méchant. Mais il profanait le nom de Dieu chez les enfants. Pour lui, de prendre conscience que de donner de la tendresse et de poser des gestes d'affection, c'est un mal, à partir de son expérience, c'est très difficile à concevoir. Ça n'enlève pas le mal de la réalité. Mais si en plus des tribunaux, en plus des juges et de tout l'encadrement qu'une société peut mettre autour de ces personnes qui ont besoin d'être rétablies, en plus les chrétiens ne font que porter un jugement de condamnation. Comment un tel homme peut faire l'expérience qu'il est un fils? Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois. Vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Quelle est la maison que nous habitons chaque jour? Sommes-nous dans la maison de nos pères? Sommes-nous dans la maison du Père? Le cœur nouveau, le cœur de chair, à travers quel chemin? À travers quelle histoire, à travers quelle reconnaissance on a reçu ce cœur de Jésus. J'ai lu hier le livre du centenaire de la paroisse dans lequel nous sommes. Parce que arrivé dimanche, pas dimanche, je l'ai dit, je demandais à tout le monde que je rencontrais, connais-tu Saint-Maurice? J'ai fatigué tout le monde avec Saint-Maurice. Je suis même couché au grand séminaire de Québec, j'ai demandé aux confrères de Québec, c'est qui Saint-Maurice? Personne ne connaissait Saint-Malo. Fait que j'ai demandé à Hélène. Hélène, là-bas, elle m'a dit, pas, mais j'ai un livre, peut-être que je suis centième, là, peut-être que j'ai découvert que c'est qui Saint-Malo. Fait que j'ai tout lu le livre du centenaire de Saint-Malo, puis je sais c'est qui Saint-Malo. Connaissez-vous Saint-Malo? Bon. Ben, je vais vous dire ça, là, je ne sais pas ce que c'est important, je vais vous dire, je vous ai parlé de Saint-Malo. Alors, Saint-Malo, finalement, j'ai découvert que c'était un évêque d'Angleterre qui, un jour, est parti en expédition maritime avec des ecclésiastiques et des notables. Puis ils se sont ramassés sur une mer un peu difficile. Puis est arrivé la fête de Pâques. Puis là, il aurait bien aimé célébrer l'Eucharistie. Mais il ne pouvait pas faire ça sur le bateau. Fait que là, il a vu comme un île en plein océan, là. Fait qu'ils ont décidé d'aller célébrer sur cette île-là. Il est descendu, puis ils ont mis l'hôtel, puis ça, mais c'était une île sur laquelle il n'y avait aucune végétation. Ben, elle était très humide, puis même c'était glissant. Fait qu'il a commencé sa célébration, puis au moment du Notre Père, l'île s'est mal branlée. Tout à coup, ils se sont aperçus qu'ils étaient sur une baleine. Et là, tout le monde s'est mis à avoir peur, ils perdent leur vie. Bon, puis ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'évêque a dit, écoutez, notre Dieu a libéré Jonas qui était dans le ventre de la baleine, il doit être aussi puissant aujourd'hui, alors on n'a pas besoin d'avoir peur avec le Dieu qui est le nôtre. Il a dit à la baleine de se reposer là, jusqu'à la fin de la messe. Puis là, elle a obéi. Puis ils ont fini la messe. Il a tourné sur le. Bon, là, c'est l'histoire de Saint-Malo. Alors, je me pose des questions, c'est tout ça. Mais si vous voyez le vitrail en arrière, vous allez comprendre quoi qu'on voit. On voit un gros poisson, on le plonge dessus. Parce que c'est toute cette histoire-là qui est dans le vitrail. Mais j'ai tout lu le livre. Savez-vous comment on faisait pour développer des coins de cité autrefois? Comment on faisait des. Comment la ville de Québec s'est développée? Comment la ville de Montréal s'est développée? Quand on voulait ouvrir un quartier, on faisait quoi?
On mettait une croix.
On mettait une croix et on fondait une paroisse. Et quand la paroisse était fondée, là, il y avait des marchands qui arrivaient, puis il y avait une école qui s'ouvrait, puis il y avait toute une vie qui se développait. Puis, moi, hier, quand j'ai vu tout ça, j'ai compris pourquoi telle rue s'appelait telle rue, pourquoi qu'il y avait ce nom-là, puis là, il y a trois noms de filles ici dans les rues, là, puis c'est des filles d'un notable important de cet homme-là. Puis un autre, c'est pour telle raison. Puis un autre, c'est pour. Toutes les rues ont un sens. Ils ont une histoire. Ils viennent d'une réalité. Et tout à coup, dans la paroisse, on s'apercevait qu'il y avait des enfants qui étaient abandonnés. On s'apercevait qu'il y avait, comme on les appelait à l'époque, des infirmes. Il n'y avait pas de lieu pour rester. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Là, on appelait une communauté de sœurs pour nous ouvrir nos ressources. Puis, savez-vous où on trouvait l'argent? Dans les poches des paroissiens qui, en communion avec les sœurs, ouvraient une maison pour s'occuper de ceux qu'on s'occupait. La grande différence entre cette époque et la nôtre, c'est qu'on a tourné ça dans les
nouvelles.
Puis, et tout le trésor, toute la richesse, toute la fierté de se mettre debout dans la réalité et de trouver une réponse. C'est maintenant le problème du gouvernement qui vient pas nous demander notre argent qui apparaît. Vous savez ce qui était de la nature, hein? C'était un collecteur d'impôts, il travaillait pour le gouvernement. Puis là, ben, Matthieu, ou si vous voulez regarder le texte de Zachée, il était un riche collecteur d'impôts. Et il était riche. Mais il voulait savoir c'est qui Jésus. Mais il n'y arrivait pas à cause de la foule parce qu'il était petit de taille. Mais je comprends que quand le monde regardait Matthieu, là, qui arrivait chez eux, pensez-vous qu'il était content de dire à Matthieu, « Oh, bonjour Matthieu! Tu t'en viens chercher mon argent hein, pour les Romains! » Tellement content, je ne savais plus quoi faire avec, je voulais faire un don, une offrande au Seigneur, on va te donner. Non. Il donnait, mais plus il donnait, là, plus il naissait. Puis notre ami, il travaillait pour les Romains, puis il n'avait pas beaucoup de place. Hein, il n'était pas vraiment reconnu par les Romains, il était utilisé par les Romains. Puis du côté des Juifs, ils ne le connaissaient pas parce qu'ils avaient toutes les poches. De l'avoir donné par amour. Puis on prenait toute une expérience sur la réalité, puis on découvrait qu'il était Jésus. Pensez-vous que foi et partage peut avoir changé quelque chose à la réalité de notre monde?
Moi, je dis oui.
Un peu? J'achèterai le livre que bientôt, probablement, sera édité. Parce que quelques années, j'avais dit ceci à un de mes amis, qui s'appelle Jean-Eudebout. Jean-Eudebout, il était atteint de paralysie cérébrale. Puis, il n'était pas verbal. Puis il est né dans le coin de Nicolette, à Saint-Grégoire, d'une famille de cultivateurs. Et quand il est né, probablement en 1944-45, des personnes handicapées physiques ou la réalité de l'handicap physique n'était pas beaucoup connu. Puis les agriculteurs n'avaient pas nécessairement fait de très grandes études. Alors Jean-Eudes a grandi chez lui, au milieu de sa mère et son père, il avait deux sœurs. Puis il y a eu une histoire. Moi je l'ai rencontré, Jean-Eudes, il y avait à peu près il habitait le foyer de charité de Montréal, on m'avait demandé d'aller pour le directeur à un moment donné, du foyer de charité de Montréal. Puis j'avais dit ceci à Jean-Eudes. Jean-Eudes, tu devrais écrire ta vie. Jean-Eudes, comment c'est écrire ça? Ça fait 30 ans qu'il a commencé à écrire ça. Il est mort il y a quelques mois. Et on est en train de finir l'écriture de son livre. Comme je travaillais ça avec une bénévole, Thérèse, Renato, Fonis, Marie, moi, on a dit, on va finir le livre de Jean-Eudes. T'as vu qu'est-ce qui était le tournant, un des grands tournants dans la lecture? une retraite de foi barbare qui a vécu avec Jean Vanier dans la paroisse Saint-Cunégonde de Montréal. Pourquoi c'est un grand pour moi? D'abord, quand il est parti de chez eux, il savait bien que son père et sa mère l'avaient mis. Et là, son père était mort. Puis voici ce qui est arrivé quand il est parti de chez lui. Quand il est parti de chez lui, son père était mort, sa mère avait une grande dépression, puis ses tantes disaient, tu ne devrais pas le garder, c'est trop lourd, tu vas tomber malade. Puis il avait tellement voulu que la mère se libère de Jean-Eudes. Et elle ne voulait pas. Elle voulait garder son fils. Puis elle était même heureuse d'être avec son fils, même si c'était exigeant. Et tant qu'elle tombait en dépression, elle est rentrée dans un hôpital psychiatrique. Que, un jour, on a dit à Jean-Eudes, « Bon, on va aller voir maman à Montréal. » Fait qu'il l'a embarqué dans l'auto, Saint-Grégoire. Il l'a emmené au foyer de charité. Ils l'ont pas dit, ils l'ont laissé là dans un gré local. On appelle ça un événement. Dans une vie. D'une autre façon, on appelle une autre. Puis là, Jean-Eudes, qui a fini par vivre au foyer, même s'il a hurlé pendant trois jours, puis il a pu faire tout ça, c'est qu'il a commencé à découvrir du monde qui n'était pas sa famille avec lequel il était capable de vivre. Puis, ils ont commencé à faire un tableau de communication. Ils ont fait un fini par y faire un tableau de communication, mais qui a commencé par être capable de communiquer avec d'autres. Et un jour, c'est une histoire très courte, il est arrivé à la retraite de foi partage dans le quartier Saint-Henri de Montréal, où il se trouvait à peu près avec 500 personnes, suivant une retraite aujourd'hui. Dans la scène où il va écrire toute la retraite qu'il a vécue, il y a un mot qui revient constamment. C'est la plus belle semaine de ma vie. C'est la plus belle semaine de ma vie. C'est la plus belle semaine de ma vie. Alors là, il a découvert qu'il pouvait parler avec du monde intelligent. Puis il pouvait comprendre le monde intelligent qui parlait. Puis là, celui qui l'aidait à se lever parce qu'il a couché dans cette semaine-là, c'était un séminariste qui était pour être ordonné tout de suite après la retraite. Alors qu'il l'a emmené aux toilettes, il l'a emmené manger, puis là, il a vu quelqu'un qui aimait même ça faire ça. Puis là, il n'en venait pas. Puis là, il s'est mis à créer des liens avec du monde qui n'était pas handicapé, puis à être regardé comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un qui avait de quoi apporter. Puis, imaginez-vous donc que son chum l'a invité à son domicile. À partir de ce moment-là, la vie de Jean-Eudes n'a plus jamais été là. Il a créé des liens. Il est allé à Lourdes. Il est allé aux chutes Niagara. Il a créé des liens tellement qu'à la fin de son livre, je crois que nous avons 6 pages de noms avec lesquels Jean-Eudes est en. À un moment donné, il a écrit une lettre à son médecin. Il dit ceci au médecin. Je vous remercie beaucoup pour tous les bons soins que vous m'apportez. Et j'apprécie beaucoup quand vous venez dans ma chambre avec l'infirmière. Mais je voudrais vous dire que vous êtes obligé de passer par l'infirmière pour me parler. Vous pouvez me parler en direct. Je vous comprends. Et Si j'ai des questions à vous demander, ben je vous les demanderai et je voudrais bien que vous me donniez des réponses. Maintenant, quand vous changez mes médicaments, j'aimerais ça que vous m'en parliez et que vous me disiez pourquoi des médicaments et pourquoi des choses. Je m'intéresse beaucoup à moi-même. Et je veux savoir, hein, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Jean est un non-verbal avec une capacité de s'affirmer. Quand l'année passée, ou à peu près, il a été opéré pour qu'on lui pompe un tube qui mange liquide, là. Le médecin m'a demandé à l'opération de la chirurgie, « Est-ce que tu veux vivre? » La Jean-Eudes a écrit le texte. Alors, il était à peu près ceci au médecin. Vous savez, on m'a appris que c'était pas moi qui décidais ça. Ma vie n'est pas entre mes mains, mais dans les mains de Dieu. Alors, puis moi, oui, je veux vivre. Et je pense que j'ai encore des choses à faire sur cette terre. Que ma mission n'est pas achevée, qu'elle n'est pas terminée. Et une des grandes motivations, c'était d'aller au bout de son... Ben, mes amis, quand Foi et Partage a commencé, c'est au moment de la désinstitutionnalisation de toutes nos institutions ici, autour, et on a pris des personnes handicapées dans les institutions, on les a mis à l'extérieur des institutions. C'était déjà un beau geste. C'est vous où était le grand âme? Il n'y avait aucune structure sociale pour le vivre. Savez-vous qui a créé des liens, qui a proposé une nouvelle vision, une nouvelle façon d'approcher les personnes handicapées? Jean a été un des têtes dans le domaine. Comment il a fait ça, Jean? On l'avait invité à faire une retraite, hein, dans un lieu qui était en Ontario, à venir prêcher à des prêtres. Et Jean a dit, oui, à une condition, c'est qu'il puisse y avoir des personnes handicapées puis que l'Église, peuple de Dieu, puisse être à la paix. C'est là qu'on a commencé, Foi et Partage. Et je peux vous dire que dans mon ministère, à Montréal, auprès des personnes handicapées, j'ai des gens qui ont fait des retraites de Foi et Partage il y a 25 ans, puis ils sont encore à la communauté de Montréal de Foi et Partage. Et que l'expérience et la découverte qu'ils ont fait d'humain, c'est tout simplement qu'ils étaient quelqu'un, qu'ils pouvaient établir des liens, qu'il pouvait être significatif et qu'il pouvait apporter à une communauté le trésor qu'il sait. Mes amis, j'ai rarement vu un monde se transformer par des fonctions, mais j'ai souvent vu un monde se transformer par des alliances. Ce soir, je vais terminer en vous disant ceci. Ma mère est morte pendant très longtemps. 3 ans. Et j'étais dans sa chambre pendant ces derniers 20 ans. Puis on m'avait appelé. Comme j'étais le plus proche de la famille, quand tu m'en étais, ben c'est moi qui t'ai en premier. Quand je suis rentré dans la chambre, il y avait deux infirmiers qui sortaient. Ils m'ont pas dit comment t'es mort, je ne suis pas encore mort. Je suis allé à côté de son lit. J'ai dit à maman, je suis venu pour dire bonjour maman. Mais je n'ai pas eu le temps de dire bonjour maman, j'ai reçu le dernier rendement de ma mère. Alors, j'ai mis la main sur sa tête, elle était bien. J'ai approché mon oreille de sa bouche, il n'y avait plus aucun souffle. Puis, ce rendement, je l'avais reçu comme une agression dans mon ventre. Et ce que j'ai vécu, c'était assez difficile. Puis là, je me suis dit, donc, j'ai vécu la mort de mon père de façon très simple. Puis je vis la mort de ma mère de façon très difficile. Je ne suis pas tranquille, je ne suis pas en paix. Alors, je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis là, j'ai comme entendu ma mère me dire ceci. Elle n'a pas parlé, non. Mais comme ça, elle me disait, regarde Pierre, entre toi et moi, ça n'a jamais été des eaux calmes. Il y a un nœud entre toi et moi, Pierre, que je n'ai jamais réussi à dénouer. Alors, regarde Pierre, je te le donne, puis je m'en vais. Dénoue-le. Alors, je ne savais pas comment faire pour dénouer le lien entre ma mère et moi, alors qu'il était plus là. Fait qu'en sortant de la chambre de ma mère, je lui ai dit ceci à Dieu. Bon, regarde Dieu, il y a un nœud entre ma mère et moi qu'on n'a jamais réussi à dénouer. Alors, tu vas faire comme ma mère, je te le donne, dénoue-le. Puis, dans la journée, on est allé faire des arrangements, puis là, on devait choisir une petite carte pour être mettre une prière en arrière, on nous proposait des prières. Je pense que ma vie a prié, puis à créer des prières. Je n'avais pas le goût de prendre une prière qui était faite pour ma mère. Il fallait que je donne le texte tout de suite, fait que je suis concentré 3 minutes. Puis partir d'un texte de Saint Jean qui dit au milieu de la place de part et d'autre du fleuve, l'arbre de vie fructifiant 12 fois donne son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. J'ai écrit un texte qui ressemble à ceci. Blanche a eu à chaque saison de sa vie un fruit. Richard au printemps, c'est mon frère. Pierre en hiver, c'est moi. Et Lise et Mireille, c'est une fille à l'automne. Elle a gardé l'été pour son grand passage comme sa mère et son mari avant elle. Puis le lendemain, je me suis aperçu que je n'avais pas mis le nom de ma sœur. Alors, je me suis dit, je vais s'appeler, on change le nom. Ginette, elle est née entre mes deux sœurs aînées. Elle est morte et était prématurée avec 6 mois. Mes tantes sont là sans les amours, fait que je ne souviens plus de Ginette. Les autres n'ont pas connu. Fait que j'ai laissé ça comme ça. J'ai fait une prière au salon, rappelant que l'histoire qu'on m'avait donnée de ma sœur, ma mère m'avait dit, elle est morte, elle est née prématurée, j'ai accouché à la maison, le médecin l'a baptisé avec le grand-père de foi, elle est morte de foi. Bon. Moi, j'avais retenu que le baptême avait tué ma sœur. Elle avait été immédiatement configurée au Christ, elle avait ressuscité, là, comme ça. Bon. Ma sœur m'a dit, le soir, à la fin du salon, bien, c'est pas comme ça. C'est le médecin. Il l'avait mis sa tablette du soir. Maman était en hémorragie. Elle a dit, mais que je vais faire avec le bébé? Ben, il a dit, vous n'avez rien à faire, elle va mourir. Puis il dit, le lendemain matin, il dit, quand l'infirmière est arrivée, le Ginette a pleuré. C'est que l'infirmière a dit, c'est quoi ça? Elle a pleuré de même toute la nuit. Alors, maman ne l'a pas pris, elle ne pouvait pas apprendre, elle n'était pas physiquement capable de l'apprendre. Mon père ne savait pas comment prendre un bébé. Puis mon autre petite sœur qui était là, qui ne sais pas quel âge, elle ne pouvait rien faire avec un bébé. Alors, mon père a passé son lit d'enfer avec une femme qui était pleine de sang, un nourrisson qui mourait sur une tablette de poil, puis une petite fille qui ne savait pas vraiment comment s'en occuper lui-même. Puis le lendemain matin, l'infirmière allait allumer le poil, puis elle a donné soin à maman, puis elle a emmené le bébé à l'hôpital. Elle a survécu 3 semaines. Et elle est morte un 2 février. Puis 6 ans après, un 2 février, il fait que... Et quand on a déposé le bébé que j'étais dans les bras de ma mère, faisait 6 ans qu'elle portait cette date comme une mémoire. Et entre ma mère et moi, il y avait quelqu'un qui s'appelait Juliette. Je vais vous dire une des choses que ça a fait de moi. Dites-moi pas que telle personne, il ne faut pas qu'on s'en occupe. Parce que vous pouvez être sûr que je vais lui donner des soins. Parce que ma mère n'est jamais revenue. Je ne vais pas donner des soins. Les amis, c'est pas par nos forces qu'on découvre notre identité profonde. C'est par nos fragilités qui ont engendré nos forces. Et quand dans ton nœud, parce que c'est devenu très clair que Dieu avait en 3 jours dénoué le nœud entre ma mère et moi, que 65 ans de mon histoire et 80 ans de la sienne n'avaient pas les faveurs. Quand, dans ton nœud, dénoué par l'amour de Dieu, vous avez la chance de vous mettre debout là où vous étiez écrasé, vous devenez quelqu'un qui est capable d'être un signe pour toutes les nations. C'est pas dans nos forces et c'est merveilleux, parce que peut-être que tout le monde n'a pas des forces, mais tout le monde a des limites. Et tout le monde a des fragilités. Et je pense que dans ces fragilités, Dieu peut travailler et faire une grande œuvre, et faire qu'un cœur de pierre puisse devenir un cœur de chair. Alors, on demande au Seigneur que l'on soit très conscient au cœur de notre monde, dans cette société, là où il y aura toujours de la vie nouvelle, une humanité nouvelle qui va surgir, ce sera de petites communautés d'alliance qui n'auront pas à proposer un fonctionnariat, mais qui auront à proposer la créativité de l'amour et la capacité d'ouvrir des maisons où le Père pourra recevoir ses enfants. Et ça, ce n'est pas le gouvernement. C'est le corps du Christ que nous sommes. Nous l'avons fait depuis longtemps ici, puis on est encore repris, parce qu'il y en a beaucoup dans la rue, il y en a beaucoup dans la souffrance mentale, il y en a beaucoup de toutes sortes de manières qui ont beaucoup besoin d'être reçus et reconnus dans l'amour du Père.